Nous avons quand même pu, Liliane et moi, vivre quelques bons événements cette année, en particulier le camp de la Drôme. Vous savez, ce camp qui avait été fondé il y a 26 ans et qui rassemble différentes églises, surtout La Colline et Mérin. Alors nous y avons participé, il y avait 85 participants, donc de quoi oublier un peu les aléas de notre vie quotidienne. Et c'était une toute bonne expérience sous les chênes de Mamré, dans la Drôme. Aussi, nous sommes heureux de voir combien Dieu prend soin de son Église et que de belles choses se vivent. J'avais à cœur ce matin de visiter les fondements de notre foi. Et le fondement par excellence, c'est évidemment la prière du Notre Père. À vrai dire, ça fait plus de 20 ans que je n'avais jamais prêché sur ce thème. Alors quand je m'en suis replongé, c'était pour moi une passion, un vrai délice. Tout d'abord, deux lectures bibliques, une prière de l'Ancien Testament, le psaume 86. « Seigneur, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à mes supplications. Au jour de ma détresse, je t'invoque et tu me réponds. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, rien ne ressemble à tes œuvres. Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, car ta fidélité est grande envers moi. Seigneur, tu es un Dieu compatissant et clément, patient et grand par ta fidélité et ta loyauté. » C'était le psaume 86. Et puis maintenant, bien sûr, Matthieu 6, qui est au cœur de la prédication de ce matin. Lorsque vous priez, ou quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles, comme les non-juifs, pardon, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comme vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré. Que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles, amen. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera, à vous aussi. Mais si vous ne leur pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Voilà, ma prédication ce matin se concentre vraiment sur les paroles de notre Père. Et si ce que je vais dire vous paraît peut-être un peu obscur ou trop dense, sachez que j'ai fait un petit résumé de la prédication que je me ferai plaisir de vous distribuer à la sortie ou de vous envoyer si vous êtes loin d'ici. Un commentaire souligne que la prière du Notre Père est bien plus une formule à réciter, elle est un vrai art de vivre. C'est un art de vivre. Alors, une fois qu'on a affirmé cela, il est bon de nous poser la question, mais qu'est-ce qui inspire mon style de vie ? Et là, si nous avions plus de temps, si nous étions, je sais pas, dans une retraite comme le camp de la Drôme, on prendrait du temps pour réfléchir, méditer les uns les autres. Qu'est-ce qui inspire notre style de vie? Alors bon, faut être réaliste. Je crois qu'il y a autant de réponses que de personnes. Ceci dit, il faut reconnaître que nos sources d'inspiration les plus fréquentes sont quand même les médias. Régulièrement, nous tournons le bouton de la télévision et de la radio, les journaux. Nos sources d'inspiration, c'est aussi notre entourage, mais c'est aussi nous-mêmes, les sentiments, les émotions, les passions qui montent de l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, bon, pour faire court, vraiment très court, nos sources d'inspiration, finalement, se résument dans ces quelques objectifs: réussir sa vie, se faire plaisir, vivre un bonheur sans nuages, et puis réaliser nos attentes, bref, être zen et être tout à fait dans la réalisation de nos attentes. Alors, rassurez-vous, je trouve que ces objectifs sont légitimes. Par contre, je crois qu'il faut nous interroger, et c'est bien l'objet de cette prière, nous interroger sur le chemin emprunté pour réaliser ces objectifs. Et c'est alors que nous découvrons que notre Père indique un chemin par excellence. Notre Père nous propose un art de vivre propre à réaliser nos objectifs. Père. Père, c'est le premier mot en grec de cette prière, pater hémon. C'est le premier mot en grec. Bon, dans l'Ancien Testament, le titre de Père est attribué à Dieu à plusieurs reprises, mais surtout lorsqu'il évoque des difficultés au sein du peuple d'Israël, des crises. Il n'y a personne qui invoque ton nom, pourtant Seigneur, tu es notre Père, dit Ésaïe au chapitre 64. Comme tout juif pieux, Jésus utilise les prières de la Bible. Jésus utilise les psaumes en particulier. Mais il les formule selon le texte originel. Mais chaque fois que Jésus prie spontanément, et ça c'est tout à fait frappant, il débute ses prières par ce mot « Père ». Père. Et par cette expression, il nous révèle qui est Dieu. Il nous révèle Dieu non pas seulement dans ses œuvres, sa personne, mais il nous révèle Dieu dans ce qu'il a de plus intime, dans son être vraiment le plus ultime, le plus intime, et ce que Dieu désire développer avec nous en tant que relation. Être un Père pour nous. Alors tout cela est riche et vaste et peut-être même compliqué. Enfin, suivant le Père que nous avons eu, ces paroles seront entendues d'une manière très différente. J'en suis conscient, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. J'évoque simplement qu'il est utile de réfléchir à notre propre héritage. Donc Jésus nous révèle la vraie nature de Dieu afin de remettre en cause nos fausses représentations. Et ça, c'est peut-être utile de nous souvenir que, ou de savoir, ou d'observer que spontanément, dans notre société, lorsqu'on croit en Dieu, eh bien, souvent on attribue à Dieu un qualificatif, que c'est un Dieu sévère, c'est éventuellement un Dieu juge, justicier, voire un Dieu policier, ou bien alors Dieu est une trousse de secours que j'invoque, que j'appelle lorsque j'ai besoin qu'il fasse un miracle pour moi, ou bien alors c'est le pourvoyeur de tous mes caprices lorsque j'ai besoin de telle et telle intervention dans une situation de vie. Non, par le mot « Père », en fait, Jésus nous introduit dans un tout autre rapport à Dieu. Un rapport fait de tendresse, d'intimité, de proximité, d'amour filial. À vrai dire, cette idée d'un amour filial entre Dieu et les hommes était déjà présente dans l'Ancien Testament. Vous l'avez entendu dans ce psaume 86, « Tu es compatissant ». Moïse l'a longuement développé dans Exode 33, mais curieusement, c'est quand même une notion qui a été comme mise de côté. Donc, en disant « Notre Père », nous confessons notre foi en un Dieu qui est source de confiance, de plénitude. Alors, l'apôtre Paul utilise cette expression « Notre Père » pour mettre en valeur un certain nombre de vérités. D'abord, notre libération de l'esclavage. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et pour aussi attester que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et chaque fois, Paul associe l'idée de Père à ces deux grandes vérités fondamentales de notre identité chrétienne. Dès lors, chers amis, Dieu n'est plus seulement notre Créateur, celui qui est à l'origine du monde. Dieu n'est plus seulement celui qui pourvoit notre bonheur quotidien, il est Père présent au cœur de nos vies. Dieu n'est pas lointain, il n'est pas un vague système philosophique ou religieux. Chaque jour, nous recevons notre identité de lui. Cette expression, elle est très orthodoxe, recevoir notre vie de Dieu. Alors je sais qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de cette expression, mais je crois qu'elle dit quelque chose de fondamental, recevoir notre vie de Dieu. Et là, j'ai glissé une citation de Camus que je vous laisserai découvrir dans le texte, qui est pathétique parce qu'elle est le contraste absolu du côté lumineux que j'essaie de développer. Recevoir notre vie de Dieu. Mais certes, nous restons fragiles et vulnérables, mais voilà, au cœur de nos fragilités, Dieu vient féconder notre existence sans pour autant l'infantiliser, sans nous enfermer dans une nouvelle dépendance. Recevoir une relation de confiance, d'amour, libérée de toute forme de dépendance. Maître Eckhart, pour qualifier ce type de relation, a eu cette expression assez étonnante. « Tu es mon Dieu, je n'ai pas besoin de toi. » Tu es mon Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Alors, la première fois que j'ai lu cette expression, c'était sous la plume de Jolien, intéressant. Il faut lire l'un des derniers livres de Jolien, où il dit combien le christianisme, pour lui, est au-dessus de toutes les autres valeurs et toutes les autres religions que le monde a pu développer. Intéressant de la part de Jolien. Donc, tu es mon Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce que dit Maître Eckhart? Eh bien, il dit que l'amour vrai est gratuit. Il n'est pas conditionné par la réalisation de nos désirs et de nos besoins. Même dans l'épreuve, même dans la souffrance et dans la maladie, je peux encore dire, tu es mon Dieu. Il me faut aller de l'avant. Père, pater. Ce mot est suivi d'un possessif, notre, hémon. Notre Père. Par là même, Jésus ne dit pas seulement que Dieu est Père, mais il accompagne cette identité de ce possessif. Et dans ce possessif notre, j'entends d'abord mon. Mais oui, un Dieu personnel avec qui j'ai une relation de personne à personne. Un Dieu personnel, ça veut dire un Dieu qui m'institue comme une personne devant lui. Et dans une société ou dans des structures affectives familiales, peut-être pas très valorisantes, d'entendre que je suis institué comme une personne devant Dieu et devant moi-même, c'est quand même très édifiant, très encourageant. Et cela, c'est ce qu'il y a de plus révolutionnaire dans la foi chrétienne. Et j'insiste, aucune autre religion n'offre une telle perspective. Ni le bouddhisme, ni l'islam, ni même le judaïsme, et bien sûr pas la religion populaire. Alors, rassurez-vous, j'ai beaucoup d'estime pour tous les croyants de toutes les religions, quelles que soient les religions qu'ils pratiquent. Mais je reste convaincu que le génie du christianisme est de nous présenter un Dieu personnel qui lui-même nous institue comme des personnes devant lui. Alors Dieu est entré dans notre histoire. Il est entré dans notre histoire à un moment donné, soit d'une manière fulgurante, comme l'apôtre Paul, soit d'une manière progressive, à petite dose, chacun a son histoire. Dieu est entré dans notre histoire et il n'en sortira jamais, même à notre mort. Et j'ai envie de dire surtout à notre mort. Dieu qui a construit une relation personnelle avec nous, cette relation se perpétuera au cœur de la mort et au-delà de la mort. Alors cette idée d'une relation personnelle avec nous, elle est révolutionnaire, propre au Nouveau Testament. Dans l'Antiquité, j'ai découvert dernièrement que la pensée que Dieu est amour était une pensée mais totalement incompréhensible. C'était aussi fou que, je sais pas moi, n'importe quelle phrase aussi insensée que l'on puisse prononcer. Parce que pour les sages de l'ancien, de l'Antiquité grecque, l'amour n'était pas quelque chose d'accompli. L'amour était toujours en devenir. Donc Dieu, qui est un être plein, accompli, ne peut pas être amour puisqu'il n'est pas en devenir. Et ça, c'est la grande révolution de la foi chrétienne, d'avoir intégré la notion d'amour dans notre relation à Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Ah, il est aux cieux. Là, se construit un axe vertical qui me relie à Dieu vers le ciel. Alors bien sûr, vous le savez bien, le ciel n'est pas une localisation de Dieu. Le ciel indique simplement la grandeur infinie du Dieu transcendant. Mais il y a là un axe qui me relie à lui. Alors, en bon technicien, si je pense à un axe qui monte au ciel, je vois aussi que cet axe descend en direction de la terre. Et cet axe, c'est vrai, me relie aussi en bas, vers la terre. Cet axe me relie avec moi-même, avec mes origines, avec mon histoire. Voilà, je suis là, au milieu de ce magnifique axe qui me relie à Dieu et à moi-même, mon histoire. Il y a en moi un puits très profond, écrivait Étil Soum, et vous savez, vous avez peut-être déjà entendu cette citation. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais le plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors, il faut le mettre à jour. Non, mais chaque mot d'une citation, d'une phrase de ce genre, a son poids d'or et mériterait d'être médité au quotidien de notre existence. Oui, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, disait le Seigneur Moïse. Ça veut dire, je suis le Dieu des pères, de tes pères. Je suis le Dieu de ton histoire, quelle qu'elle soit, qu'elle ait été chaotique ou fracturée, qu'elle ait été heureuse ou malheureuse. C'est mon histoire bien réelle que Dieu vient habiter. Alors me voilà relié désormais avec le ciel et avec la terre, avec moi-même, relié à ma source, à mon horizon et à ma condition humaine. Relié, vous le savez, c'est la condition pour être pacifié, construire du lien, c'est le lien qui fait vivre. On veut nous faire croire que le bonheur personnel se trouve dans la réalisation de notre ego, dans un individualisme exacerbé. Non, tout cela n'est que malheureusement vent et illusion. Alors, notre Père, dans le nôtre, il y a bien sûr le pluriel. Le nôtre nous parle justement de notre relation, de notre horizontalité, la relation avec nos sœurs et frères humains. Cette relation est vitale, elle fait vivre, littéralement. Je ne peux pas m'allonger. Mais je reviens à cette expression qui est aux cieux. C'est aussi le signe d'une tension. C'est le signe d'une tension entre présence et absence. Et qui n'a pas été troublé par cette tension? Qui n'a pas été troublé en disant, mais enfin, voilà, ça fait tant d'années que je te prie pour cette situation de vie, ça fait tant d'années que j'espère être exaucé, et puis je ne vois toujours pas l'exaucement venu. À la mort de Lazare, Jésus retourne à Béthanie, et lorsque Marthe et Marie le rencontrent, leur première parole est celle-ci, mais enfin, Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Intéressant, hein? Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Donc, voyez les représentations et les projections qu'elles se font de Jésus, qui est censé libérer leurs frères de la mort. Donc, les libérer, elles, de leurs épreuves. Oui, Lazare est bien mort. Il y a dans nos vies des fractures, des deuils, des questions. Mais Seigneur, où es-tu lorsque je souffre? Eh bien oui, où es-tu? Eh bien, aux cieux, tout simplement. Cette distance est géniale parce qu'en fait, elle rend l'humain responsable. Jésus ne veut pas des robots. Elle rend l'humain capable de gérer sa propre vie, gérer la création, de répondre à sa vocation. Dieu a confié à l'homme la responsabilité de gérer ses quotidiens, ses joies, ses souffrances, et il lui offre des ressources pour vivre quotidiennement son existence, mais Dieu ne le fait pas à sa place. Dans cette expression « qui est aux cieux », il y a aussi une polémique, ça c'est vrai, polémique contre les animistes, parce que les animistes placent Dieu dans la nature. Ben là, il y a un magnifique bouquet de fleurs, c'est sublime, j'entends, c'est beau, non, c'est pas des dahlias, c'est des... Ah, comment est-ce qu'on appelle ces fleurs ? Glaïeul, voilà, cherchez le mot glaïeul. C'est magnifique, glaïeul. Ces graines de fleurs, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Alors, c'est vrai que certains placent Dieu dans la nature. Bon, remarquez, c'est le réflexe naturel, spontané. J'ai fait un peu d'Afrique, j'ai vu ce que c'était que l'animisme. Mais spontanément, si vous n'avez pas un enracinement dans l'altérité divine, vous allez considérer que Dieu est dans la nature, dans les orages, dans les tempêtes, voire dans le soleil, dans une rivière, dans un arbre. Bon, nous avions cru que ces croyances avaient disparu, mais comme l'humain ne peut pas vivre sans référence aux religieux, j'observe que l'animisme est de retour, et de nos jours, il prend des formes variées. L'animisme prend des formes d'un certain rapport à la nature, un rapport qui est devenu un peu idolâtre, mais aussi rapport au travail, rapport à l'argent, rapport au succès économique. Non, Dieu n'y est pas. Dieu est au ciel. Et pour finir, que ton nom soit sanctifié. Dans la culture antique, le nom désigne l'identité de la personne. C'est vraiment... Oui, le nom, c'est pas simplement... Un phonème qui est attribué à quelqu'un, c'est vraiment ce qu'il est, son identité. Quand on parle de Monsieur Boulanger, ben on voit quelqu'un qui pétrit du pain et qui fabrique voilà, de la pâtisserie. Sanctifier, c'est rendre saint, consacrer, mettre à part, mettre en évidence, révéler, dire vrai. Accorder une pleine reconnaissance à l'identité d'une personne, accorder une pleine reconnaissance à ce que l'autre est. Le contraire de sanctifier, c'est voler, usurper, mépriser. Dieu est saint. Comment pourrait-on l'être davantage ? Dit un commentateur. Et surtout, par nous. Aussi, voyez-vous, pour moi, cette expression est plus une exclamation qu'une requête. Pour moi, cette expression « que ton nom soit sanctifié », c'est un cri jubilatoire. C'est vraiment une exclamation qui exprime une louange à Dieu. Elle célèbre le nom de Dieu. « Seigneur, Père, tu es un Dieu si merveilleux, je n'ai qu'une envie, célébrer ta bonté. » Apparemment, la prière du Notre Père ne comporte aucune louange, comme on en trouve souvent dans les nombreux psaumes. Alors je trouve que cette requête, c'est l'expression d'une louange. Voilà, la louange a sa place dans le Notre Père. La conscience de la sainteté de Dieu provoque chez le croyant cette louange qui le célèbre. Mais on peut aussi comprendre cette phrase comme une requête, qui serait la suivante, « Révèle aux hommes et aux femmes ta vraie identité. » C'est vrai que le nom du Seigneur, son identité reste cachée aux yeux de la majorité. « Dieu est un Dieu discret qui se cache », dit Ésaïe. Or, son identité est tellement admirable que je n'ai qu'un désir, c'est la partager avec d'autres. Quand on a découvert un trésor, on veut le faire connaître. Que ton nom soit sanctifié. C'est aussi notre responsabilité, celle de l'Église, celle de ses membres. Que de belles figures dans l'Église, que de beauté dans l'Église, mais aussi que de trahison, que d'imperfection. Si le peuple de Dieu est appelé à sanctifier le nom de Dieu, force est de constater qu'il n'y arrive pas toujours. Ainsi, et ce sera ma conclusion. Qui va vraiment sanctifier le nom du Seigneur ? Qui est capable et habilité de sanctifier vraiment le nom du Seigneur ? Eh bien, la réponse est simple, seul Jésus. a réellement sanctifié le nom du Père. Qui me voit, voit le Père, dit Jésus. En Jésus, c'est Dieu, le Seigneur, qui désormais se charge de sanctifier son nom. Il s'occupe personnellement de ce défi. Quelle belle découverte. Néanmoins, c'est vrai, Dieu nous invite à vivre une vie juste, à consoler ceux qui pleurent, à supporter la souffrance, à renoncer à toute forme de discrimination, à respecter notre prochain, à tenir nos promesses, à veiller à vivre une spiritualité authentique. Voilà, chers amis, quand je vous ai dit au début que le Notre Père est bien plus qu'une prière, que le Notre Père est un style de vie, je crois qu'il y a là de quoi méditer cette affirmation. Alors, vous trouverez sur le papier un certain nombre de questions qui vous aideront dans cette méditation. Pour l'instant, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour la profondeur de cette prière. Et comme cela se pratique parfois dans les monastères, nous pourrions nous contenter de dire notre Père et d'entrer dans le silence. Un silence germinateur qui nous met en face de toi, de nous-mêmes, de nos responsabilités, de notre identité chrétienne, de nos loyautés. Merci Seigneur pour la richesse de cette prière, pour, j'allais dire, l'énergie qu'elle nous communique, cette énergie transformatrice qui va métamorphoser notre quotidien par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen.